Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévisions. À tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité ce soir est Ingrid Kragl. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes directrice de l'information de l'ONG Foodwatch. Alors Foodwatch se bat pour une alimentation saine et sans risque surtout. Vous avez annoncé porter plainte contre Nestlé qui est accusé par une enquête du Monde et de Radio France d'avoir purifié illégalement de l'eau contaminée pour continuer de la vendre. On en a parlé hier, on va en reparler avec vous aujourd'hui. Je précise que vous êtes l'auteur de Manger du faux pour de vrai, les scandales de la fraude alimentaire aux éditions Robert Laffont. On va revenir sur ce sujet très d'actualité. Un autre sujet d'actualité, la colère des agriculteurs. Parmi leurs revendications, il y a l'idée de ce qu'ils réclament, un moratoire sur les interdictions de pesticides, notamment le rejet du plan qui vise à réduire de moitié l'utilisation des substances chimiques d'ici à 2030 par rapport à 2015. Est-ce qu'une proposition comme celle-ci, une démarche comme celle-ci, une revendication comme celle-ci, vous pouvez la soutenir ?
On peut entendre la colère des agriculteurs chez Foodwatch. Je rappelle que nous sommes une association de défense des consommateurs, donc on prend le parti de l'intérêt général et des citoyens et citoyennes face parfois au lobby, et on sait que les agriculteurs ont aussi leur lobby et puis les décisions des politiques. On peut entendre la colère. Pourquoi ? Ben parce qu'en fait, tout simplement, ils ont faim. On sait que 1 sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. Les dernières études montrent que beaucoup d'agriculteurs sautent même des repas parce qu'en fait, simplement, ils ne peuvent pas se le permettre. Donc on entend cette colère de la faim. Le débat est parfois bifurque parfois sur il faut opposer l'agriculture, l'écologie, etc. Pour nous, c'est pas là qu'on mettrait le doigt. On entend certaines revendications. Il y a certaines qui sont entendables, d'autres sur lesquelles on n'est pas d'accord. Et nous, sur les pesticides, ce qu'on voudrait sincèrement, et on l'a communiqué cette semaine, c'est que tous les agriculteurs puissent être rémunérés à leur juste valeur. Aujourd'hui, si on regarde le vrai coût, la vraie rémunération des agriculteurs, c'est absolument scandaleux. On le voit d'un bout de la chaîne, on a les producteurs, les agriculteurs qui vivent, comme on l'a dit, 1 sur 5 sous le seuil de pauvreté. Et de l'autre côté, on a les consommateurs, les citoyens qu'on essaye de défendre et qui ont faim aussi. On l'a vu avec l'inflation, 20% en 2 ans. Et au milieu de cela, qu'est-ce qu'on a ? Des profits indécents, des marges indécentes et opaques dans la grande distribution qui a un rôle
La grande distribution
essentiel.
Ou les industriels ? C'est les la deux. Grande distribution. C'est intéressant parce que ce débat, on a l'impression qu'on l'a depuis des semaines, depuis qu'on parle de l'inflation, de savoir qui se fait le plus de marge.
Vous avez raison. Et pourquoi on l'a depuis des semaines ? Parce que ça reste opaque. Ouais. Emmanuel Macron et Bruno Le Maire, en septembre dernier, se sont engagés publiquement. Il y a plein d'extraits télé. On va les retrouver aussi sur notre site internet. Se sont engagés, en fait, à mettre des limites à ces marges indécentes parce que ce n'est pas possible d'étrangler à la fois les producteurs d'un côté de la chaîne et les citoyens qui ne savent plus se nourrir à des prix décents. Ils n'ont pas accès à une alimentation saine, à des tarifs accessibles. Ils sont obligés de se rabattre parfois sur de la malbouffe. Donc, en fait, ce débat, on l'a parce qu'il n'est pas... Il n'est pas à crever l'abcès.
Alors, qu'est-ce que
clairement,
vous dites...
c'est un problème de rémunération.
Ingrid Kragl, qu'est-ce que vous dites quand Bruno Le Maire, c'était ce matin, chez nos confrères de CNews, il a annoncé renforcer les enquêtes de la DGCCRF pour faire respecter cette fameuse loi Egalim, qui est censée protéger justement les producteurs. Donc, il a lancé des injonctions à 4 grands groupes industriels. Il va lancer 500 contrôles sur les grands distributeurs, les deux fronts, les industriels et les distributeurs. Vous lui dites... Il est temps.
Bah, écoutez, je pense que de toute façon, ils sont obligés. Hein. Le gouvernement, en ce moment, ils sont tellement étranglés par la colère partout, à la fois des agriculteurs, mais les citoyens n'en peuvent plus aussi. On le voit, nous, avec la mobilisation. Je pense qu'il est obligé d'annoncer des mesures après les
Vous voyez une contrôles. Colère des citoyens aussi, vous ?
Mais oui,
sur
vraiment.
Quoi ? Sur l'alimentation ?
Mais bien sûr. Et puis, on voit la précarité. La précarité, c'est quelque chose de criant. On travaille avec beaucoup d'associations. On voit, en fait, que ce fossé s'agrandit. Ce qui se passe, c'est qu'il annonce des mesures, c'est bien. Les contrôleurs, ils vont devoir faire un job en monte-pompier, en fait. Plutôt que de faire de la prévention et de changer le système qui permet ces inégalités de perdurer, en fait, on est en mode-pompier, donc on va mobiliser des contrôleurs sur des choses qui doivent être réglées en amont.
Ce que j'entends, ce que vous nous dites, Ingrid Kragl, j'allais dire au nom de Foodwatch, c'est oui à un système qui rémunère davantage les agriculteurs, avec l'idée que les consommateurs puissent avoir accès à de la nourriture saine. C'est ça, hein, j'ai résumé. Vous avez découvert, comme tout le monde, j'imagine, dans la presse, dans Le Monde et sur Radio France, que des grands groupes comme Alma, sources et Nestlé pratiquait des filtrations d'eau minérale naturelle. Alors, il y a des gens qui sont en train de vous regarder ce soir, qui disent, bon, bah voilà, ils font comme pour l'eau du robinet, c'est pas si grave, il n'y a pas de risque pour la santé. Il est où le scandale ? Est-ce qu'il y a un scandale ?
Il y a un scandale, bien sûr, c'est une tromperie. On est face à des multinationales, on a le groupe Nestlé avec de nombreuses marques, mais on a aussi le groupe Alma, cristalline, qui est l'eau la plus vendue en France. Et il y a un scandale, pourquoi ? Parce que c'est une tromperie, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont eu recours à des procédés, des traitements illicites, qui sont interdits par la réglementation. Il y a quand même une directive européenne sur l'eau qui prévoit en fait un certain nombre de pratiques autorisées, et donc on est face à des multinationales qui ont pensé qu'ils pouvaient être au-dessus des lois, et finalement ils se sont trouvés face à des problèmes certainement microbiologiques ou bactériologiques, et ils ont décidé de contourner les lois pour continuer d'écouler leurs
produits. Merci, et pas d'accord avec vous, c'est pas une surprise, et fait savoir qu'il y a une absence de normes interdisant explicitement ce niveau de filtration. Ils disent il n'y a pas une complicité de l'État vis-à-vis de ces grands groupes, il y a des règles qui sont un peu floues.
Alors en fait, il y a plusieurs pratiques illicites quand même. Il n'y a pas une norme écrite noir sur blanc, mais par contre, il y a quand même eu des traitements illicites. Le traitement aux UV, au charbon, il est absolument interdit sur les eaux minérales en bouteille. D'accord. Ça, c'est absolument incontestable. Donc ça, déjà, c'est une enfreinte à la réglementation. Et ça, c'est même pas questionnable. Ça, c'est clair et net. Donc Bercy, peut-être, essaye d'orienter le débat vers, bon, il n'y a pas de problème sanitaire, personne va en mourir. On a l'habitude chez Foodwatch, à chaque scandale, on nous dit, bon, c'est pas très grave, écoutez, on va pas en mourir. Ouais. Le lendemain. Sauf qu'en fait, on a quand même des infractions au code de la consommation, au code de la santé publique. Il y a la directive européenne qui est là. Et si les entreprises peuvent se mettre du jour au lendemain à interpréter comme ils veulent pour continuer à écouler leurs produits, c'est un problème. Les consommateurs ont été trompés sur les qualités substantielles des produits.
On a l'impression, depuis ces révélations-là, qu'on n'en parle pas tant que ça.
Depuis les révélations sur l'eau.
Est-ce que ça vous surprend ? Est-ce que ça devrait faire la une de toute la presse à vos yeux ? Comment est-ce que vous expliquez ? Il y a d'autres scandales que vous avez traités aussi, scandale Buitoni, etc. Alors là, il y avait eu des cas très lourds, le scandale de Nactalis également. C'est parce qu'il n'y a pas mort d'homme et parce qu'il n'y a pas de risque pour la santé ?
Vous avez raison, en fait, on a tendance à entendre, à la fois du côté des industriels et des politiques, à minimiser. Effectivement, on n'est pas comme Buitoni, sur lesquels on a aussi porté plainte, ou Ferrero, ou même Lactalis, qui ont envoyé des enfants à l'hôpital où là c'est de l'émotionnel et le gouvernement est un petit peu acculé. Nous, depuis que ça a éclaté, on interpelle le gouvernement, on a téléphoné au ministère, on demande une réaction publique. Comment se fait-il qu'on apprend grâce à cette merveilleuse enquête qu'ils étaient au courant depuis 2021 ? Il y a quand même aussi des obligations. On questionne le rôle de l'État. L'État français, si elle permet des traitements à ces entreprises, devait informer à minima les autorités européennes, parce que Foodwatch est une ONG européenne. On a des collègues qui nous appellent et qui nous disent « Mais cette Perrier, elle est servie dans les restaurants allemands. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ce produit finalement frauduleux est aussi sur nos marchés ? On n'en a jamais été informé. »
Quelles peuvent être les suites vis-à-vis de ces groupes industriels, vis-à-vis de l'État ?
En fait, ce qu'on voudrait, nous, c'est que ça ne se termine pas, comme souvent, dans l'impunité totale. C'est-à-dire
Souvent, ça se termine dans l'impunité
totale. C'est la raison pour laquelle on va porter plainte. Nous, on aimerait bien que ça aille jusqu'au bout, c'est-à-dire qu'on établisse les responsabilités, qu'on liste les infractions et qu'en face, on mette des sanctions exemplaires. Les lois sont bien faites. Normalement, il faut les appliquer.
À quelle affaire vous faites référence lorsque vous dites « on aimerait bien que ça aille jusqu'au bout » Il y a certains dossiers que vous n'avez pas réussi à mener jusqu'au bout, justement, devant la justice.
Alors, Foodwatch a un petit peu plus de 10 ans. Ouais. On a porté plainte dans l'affaire Lactalis, c'est 2017-2018, Buitoni Ferrero, c'est aussi tout récent. Le temps de la justice est long et c'est compréhensible pour bien faire les choses. Mais on a quand même souvent l'impression qu'il y a un sentiment d'impunité de la part de ces géants. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils fournissent énormément d'emplois. Le secteur alimentaire, tout secteur confondu, abattoirs, supermarchés, production, est le premier pourvoyeur d'emplois quand même en France. Donc il y a aussi cet enjeu économique.
Foodwatch, dans une étude de 2021, a révélé une série de fraudes alimentaires. J'ai redécouvert ça en préparant cette émission. On apprenait par exemple qu'une épice sur deux est frauduleuse, que 43% des miels présentent des défauts de composition, de qualité ou sont faussement étiquetés français. Quand vous levez des choses comme celle-ci, il y a une correction de la part des industriels après qui disent « Oups, on s'est fait prendre le main, sans mauvais jeu de mots, les doigts dans le pot de confiture, on va faire autrement ».
Alors effectivement, c'est l'objet de cette enquête, ouais. Du livre et qu'on a aussi dévoilé avec Foodwatch. Le souci, c'est que tout ça est très opaque et c'est un tabou. La fraude alimentaire, c'est quoi? C'est justement des aliments qui ne devraient pas être sur le marché, mais qui y sont, ouais. Parce qu'ils sont frauduleux, parce qu'ils sont adultérés, parce que c'est des pâles copies, parce que des aliments contaminés sont quand même, ouais, sur le marché, etc. Mais c'est souvent tabou, caché, parce qu'il y a un risque réputationnel, d'abord pour les marques, parce qu'il n'y a pas nécessairement une obligation des autorités de nous en informer. Et donc, il y a un véritable enjeu effectivement de transparence sur ces problématiques.
Une dernière question, les règles de calcul de Nutri-Score ont changé, ça s'est commencé le 1er janvier dernier, elles se sont durcies. Est-ce que vous dites que c'est une bonne chose qu'on durcisse les règles pour qu'on ne retrouve pas certains céréales du petit déjeuner très bien notées alors qu'ils ne devraient pas, ou est-ce que c'est une mauvaise chose parce que les industriels vont retirer ces classements s'ils sont mal notés? Comment est-ce que vous appréciez, vous ?
C'est bien que l'algorithme du Nutri-Score évolue. Il faut savoir que c'est des chercheurs. Hein. C'est très, très balèze au niveau scientifique. C'est, ouais, le CERN derrière. Donc, c'est bien que ça évolue et que ça prenne en compte la transformation, etc. On a déjà repéré, par exemple, la marque Björg, qui est vendue dans des rayons de produits a priori sains, qui a déjà commencé à retirer le Nutri-Score parce que ça ne l'arrangeait pas à l'évolution, ouais, de l'algorithme, et qui l'a remplacé par une espèce d'éco-score où, finalement, il a l'impression que ses produits sont mieux notés. Attention, vigilance, en fait. Les marques vont malheureusement essayer de nous entourlouper là aussi.
Merci, mais vous êtes là.
Oui.
Hein, vigilance, comme toujours, Ingrid Krag, merci. Oui. Je rappelle votre livre « Manger du faux pour de vrai, scandale de la fraude alimentaire » aux éditions Robert Laffont. Et puis, on va retrouver dans un instant les experts de C'est dans l'air. À tout de suite. Merci d'avoir écouté C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.